Morning Edition from NPR News.
MCT 三点的好事。
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pierre.
Jusqu'à quel point Trump est-il pris en étau dans l'affaire Epstein? Est-ce que pris à son propre piège, il fait basculer la base MAGA en l'état? En tout cas, il a perdu le narratif de cette affaire, mais jusqu'à quand? Que se passe-t-il entre la Chine et le Japon? Grosse tension entre les deux pays. Louise Baudet remet le monde à l'endroit pour nous. Le reportage est en Espagne, sur les traces, il y en a encore, de Franco, mort il y a tout juste 50 ans. Le pays n'a pas fini d'expurger sa dictature.
On nous présente comme les champions du monde de l'apologie du franquisme. On en est très satisfait, c'est ce qu'on doit faire.
Voilà, Mathieu de Taillac pour un reportage que vous découvrirez vers 18h41. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé Dubaï qui exhibe ses achats d'avions. Et dans Écrire le Monde, Ilana Mor-Youssef qui lit ou relit les auteurs qui regardent la planète a trouvé de quoi illustrer l'agression sexuelle dont a été victime la présidente mexicaine. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va.
A traitor is an American that serves foreign countries and themselves. A patriot is an American that serves the United States of America and Americans like the women standing behind me.
C'est Marjorie Taylor Greene qui parle, représentante en Géorgie. Être traître, dit-elle, c'est vendre son pays à l'étranger, être patriote. C'est quelqu'un qui sert l'Amérique et les Américains comme les femmes que j'ai derrière moi. Et c'est un moment très fort parce que non seulement c'est toujours, à certains égards, une mini-Trump, Marjorie Taylor Greene, mais là, elle parle devant des victimes d'Epstein et c'est même la première à avoir dit « il faut qu'on voit ces dossiers ». Bonsoir, Amy Greene.
Bonsoir.
Vous êtes politiste spécialiste des États-Unis, experte associée à l'Institut Montaigne, on rejoindra Franck Madvon à Washington dans un instant. Est-ce qu'il ne l'a pas vu venir, Marjorie Taylor Greene, Donald Trump, Amy Greene parce que c'est parce qu'il sent que le vent est en train de tourner à sa défaveur qu'il dit au Congrès, ok, donc on va voter, mais c'est la première fois qu'il est autant pris en étau.
Oui, il a compris qu'il y avait une fronde. Il a essayé d'ailleurs d'éteindre justement les trois personnes, même les quatre républicains qui se sont exprimés publiquement et de façon très virulente justement sur la divulgation ou le fait de rendre public ce dossier. Il a compris, en effet, qu'il y avait trop d'attentes, de demandes, que c'était en train de faire craquer, y compris jusque dans ses plus grands soutiens. Donc, ce qui est assez intéressant à observer sur cette affaire d'Epstein, c'est à quel point Donald Trump a fait plusieurs revirements, c'est-à-dire qu'il a fait un argument de campagne 2024 sur le fait de rendre public le dossier, ensuite il revient là-dessus, et puis là il perd effectivement, comme vous avez dit, le narratif et donc il se fait contrôler justement par la pression des autres.
J'ai toujours en tête moi cette phrase de 2016 au début de la première campagne où il disait « je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue et on voterait encore pour moi ». Est-ce qu'on n'est pas là dans un Trump qui croit que ça aussi c'est possible? Donc il peut dire tout et son contraire, il peut dire on va ouvrir les dossiers Epstein, et tout en sachant qu'il est dedans. Et c'est ça qui lui explose à la figure, en fait.
Je pense qu'il y a quelque chose peut-être de plus profond, mais ça dépend en fait de quelle Amérique vous parlez. C'est-à-dire que si on va se concentrer davantage sur les MAGA, ce qui est en train de se passer, c'est que le dossier Epstein incarnait une forme de corruption des élites, y compris gouvernementale, totale. Donc en fait, ça confirmait, en tout cas c'était quelque chose qui allait confirmer leurs doutes, leurs suspicions, leur défiance vis-à-vis de l'autorité politique. Et donc Donald Trump, c'était celui qui a dit, il faut tout dire, il faut tout montrer. Moi, je pense à vous, je pense à vivre le marais, etc. Ouais. Et puis qui reviennent dessus pour laisser même entendre ou en tout cas faire croire qu'il fait partie de cette élite-là, c'est quelque chose qui va venir diviser assez profondément quelques éléments du MAGA.
Ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, pour la première fois, c'est le réel qui lui pète à la figure, alors que d'habitude, justement, il ne s'encombre pas du réel. Et en même temps, d'habitude, il a des arguments qui fonctionnent. C'est un canular des démocrates, ça ne marchera pas. On se dit qu'il y a encore quelques temps, cet argument-là aurait pu marcher. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que là, effectivement, ça coince et ça ne marche pas? Est-ce que c'est la spécificité de l'affaire, ou est-ce qu'au fond, il y a quand même une forme de trop-plein, y compris chez certains républicains?
Je pense qu'il y a effectivement les éléments d'inconnu dans le dossier. C'est-à-dire que c'est un des criminels des plus grands de l'histoire américaine, avec plus d'un millier de victimes, des filles, enfin, c'est-à-dire des enfants, entre autres. Et donc, il y a quelque chose de systématisé dans ce cercle autour d'Epstein, qui implique certains grands noms, des têtes d'affiches, des grandes figures politiques à faire, etc. Donc, en fait, les Américains, ils comprennent que derrière les noms qui ont été divulgués publiquement, il peut y en avoir des tas d'autres. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, autour de ça qui va venir susciter l'intérêt avec le côté absolument grotesque des crimes qui ont été commis, avec certaines victimes qui ont pris la parole, qui sont là pour incarner cette lutte-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui dépasse la simple question politique. Donc il y a certains qui pensent que ça va permettre de d'éclairer tout ce cercle de pouvoir des élites de tous les secteurs qui y participent et qui cachent avec impunité leurs actes. Et puis, effectivement, il peut y avoir le sentiment que trop, c'est trop. Mais je pense que là, avec un Trump qui agit toujours sur trop, c'est trop, je pense que le débat se situe peut-être moins dans le dossier Epstein et plus dans le qu'est-ce que Donald Trump a fait pour moi, pour ma famille. Donc en fait, il y a deux sujets un peu différents, je pense.
On va y aller dans un instant, voir notamment les victimes. Il y a quand même ce chiffre, hein, 427 contre une voix, la Chambre des représentants. C'est quand même un sacré truc, 100% au Sénat. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il a perdu l'emprise qu'il avait sur le Parti républicain ? Encore une fois, il n'y a encore pas si longtemps, il la faisait taire, Marjorie Taylor Greene. Et là, il ne peut pas le faire.
Oui, absolument. Je pense que ce qui est très intéressant dans ce dossier-là, c'est que en fait, finalement, on va revenir vers quelque chose d'assez classique. Le MAGA, c'est une sorte d'OVNI comme mouvement en politique de l'histoire récente. Et là, on voit que c'est un mouvement politique qui est sujet, effectivement, aux mêmes dynamiques politiques, avec des dirigeants qui s'inquiètent pour les élections de mi-mandat l'année prochaine et qui font le calcul électoral de base. C'est-à-dire que j'ai des électeurs qui ne vont pas du tout supporter que je me mets sur un côté de l'histoire pour être fidèle à Donald Trump. Et donc, je vais devoir être redevable devant ces personnes dans un an. Et voilà, donc en fait, finalement, on voit le jeu politique, et je dis jeu politique avec beaucoup d'humilité, parce que là, on parle d'un millier de victimes, mais en fait, quelque part, il y a à la fois le devoir moral, la pression des électeurs et l'échéance politique à venir.
Ce qui n'est pas impossible sur Marjorie Taylor Greene, puisqu'elle est représentante de la Géorgie, qui est aussi un swing state. Mais justement, bonsoir Franck Madron.
Bonsoir, très bien.
Je voudrais qu'on revienne aux victimes, parce qu'effectivement, il y a une triple pression. Il y a évidemment la pression des démocrates, il y a la pression des MAGA, donc on l'a beaucoup dit, et la pression des victimes. On les a vus revenir dans le jeu, et ce sont des femmes qui ont toujours dit combien le suicide d'Epstein en prison les avait frustrées de procès. Donc là, ce qu'elles disent, c'est « pensez à nous, ne faites pas de politique, le dossier est bien plus grave que ça ».
Ben oui, c'est la grande préoccupation des victimes de Jeffrey Epstein. Des dizaines de femmes ont souffert et souffrent encore. Ce n'est pas un sujet politique et ces victimes veulent que la vérité soit faite sur les agissements d'Epstein et que tous les documents entre les mains du FBI soient publiés. Ça fait des mois, des années qu'elles le réclament. Ces femmes sont de plus en plus nombreuses. Elles tiennent régulièrement des conférences de presse, souvent avec des élus du Congrès. Et c'était le cas hier encore au pied du Capitole. Chaque victime est venue avec une photo d'elle au moment des agressions sexuelles qu'elle a subies, donc à l'âge de 14, 16 ans, des femmes souvent en larmes, comme Jenna Lisa Jones, qui a la particularité d'avoir voté Donald Trump.
Les abus sexuels ne sont ni un problème républicain ni un problème démocrate. Le monde doit voir ces documents pour savoir qui était Jeffrey Epstein et comment le système l'a aidé et nous a laissé tomber. D'abord, l'administration a dit qu'elle allait tout publier, puis rien. Maintenant qu'un texte est voté pour publier ces documents, l'administration dit qu'elle compte enquêter sur les démocrates amis d'Epstein. Je vous en supplie, Président Trump.
Please stop making this political.
Arrêtez d'en faire une affaire politique. J'ai voté pour vous, mais votre comportement dans cette affaire a été une honte nationale.
National embarrassment.
Voilà, ce n'est pas un sujet politique, n'oubliez pas les victimes. C'est aussi ce que disent en fait les élus des deux camps à l'origine du texte demandant la publication de tous les documents.
Dites-moi Franck, il y en aura des pages et des pages qui vont pouvoir être publiées désormais. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va y trouver ou pas du tout?
Évidemment, personne n'a vraiment la réponse possible, qu'il n'y ait pas grand-chose après tout. Mais c'est quand même le résultat d'enquêtes très approfondies qui ont été menées en Floride et à New York pendant plus de 10 ans. Epstein n'était pas un financier de haut vol, sa fortune est d'ailleurs en soi un mystère. A-t-il fait chanter des millionnaires impliqués dans son réseau sexuel? C'est une des hypothèses. En tout cas, c'était un mondain qui a fréquenté beaucoup de personnes influentes. Et dans les documents qui restent à publier, il y aura des correspondances écrites, des interviews de témoins, peut-être des enregistrements, des fichiers bancaires. On ne sait pas si d'autres crimes seront révélés, mais il est probable qu'on en sache un peu plus sur les liens entre certaines célébrités et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. C'est ainsi que Larry Summers, l'ancien ministre des Finances de Bill Clinton, vous le savez, a été contraint cette semaine d'annoncer son retrait de la vie publique. Il avait continué à échanger tardivement avec Epstein.
Merci beaucoup, Franck Madvon. Emigrine, c'est très impressionnant. J'ai voté pour vous, Monsieur Trump, mais je me demandais ce qu'elle embarquait avec elle, notamment Marjorie Taylor Greene et les autres, parce que la base MAGA, c'est cette femme qu'on a entendue, mais c'est surtout, ce sont des podcasteurs, ce sont des streamers, c'est tous ces gens-là qui ont activement participé à la campagne. Est-ce que ça tangue ou pas? Parce que c'est là-dessus que s'informent les électeurs républicains.
Oui, quand on écoute Marjorie Taylor Greene ou même Thomas Massie, un autre républicain impliqué au cœur de ce dossier, ou puis le représentant Ro Khanna, un démocrate, ils disent en fait, une fois vous rencontrez des victimes, vous pouvez plus fermer les yeux, vous pouvez plus vous taire. Tellement c'est énorme ce à quoi elles ont survécu. Et donc effectivement, pour les victimes ou les survivantes et puis d'autres qui ont voté Trump autour de ce sujet-là, c'est précisément parce que il a fait un lien entre l'ampleur de ce dossier et une forme d'élite démocrate. Et donc, finalement, c'était la promesse de divulguer, de rendre public tous les crimes, tous les dérives des démocrates. Après, quand il fait un revirement là-dessus, c'est effectivement là où cette base-là, qui est en attente de savoir jusqu'où la systématisation de cette violence va devenir très frustrée et effectivement avec le devoir aux électeurs, mais aussi pour eux, investi d'une forme de devoir moral.
Après, il s'est sorti de situations dont on ne doit pas sortir théoriquement, hein, Donald Trump depuis le début, y compris d'ailleurs au début, il y a eu un pic sur l'affaire Epstein et puis c'est revenu, l'actualité a avalé autre chose. Est-ce qu'on dit que cette fois c'est différent ou est-ce que ce qui risque de se passer, Emigrine, c'est que dans une semaine ou une fois qu'il faudra digérer ces plus de 20 000, 30 000 documents, il passera au travers comme le reste?
Sans doute, c'est une
affaire. Est-ce que vous dites avant, après ou pas,
en fait? Ouais, c'est une bombe à retardement. Donc, pour l'instant, on va voir quel est le calendrier de la divulgation. C'est un dossier d'enquête, en fait, finalement. Mais, typiquement, le ministère de la Justice n'aime pas rendre public des documents sauf s'ils vont inculper quelqu'un ou des personnes, sur des motifs très précis. Donc là, ça sera des documents dans un dossier presque provisoire. Et donc, il y aura une ampleur. Il y aura des centaines de journalistes qui se plongent dans ces documents-là. Ça va prendre du temps. Il y aura sans doute, à partir du moment où c'est divulgué, des noms qui n'étaient pas sortis jusqu'ici. Mm-hmm. Et donc finalement, il peut y avoir, comme on dit en anglais, mais je ne trouve pas moment
Allez-y,
en français, un reckoning, une sorte de compte-rendu massif, y compris dans la cour de l'opinion publique, autour des personnes qui y figurent. Et il y a un avant, il y aura un après, mais ce n'est pas forcément un sujet à côté duquel Donald Trump peut passer comme si rien n'était.
Alors surtout que si effectivement ça prendra du temps, et c'est le cas, on va s'approcher des élections à mi-mandat. Et c'est ça, j'imagine, qui finira par lui faire peur quand même, non?
Oui, le Parti républicain est en situation d'un peu difficile en ce moment. Ils ont subi des défaites électorales assez importantes dans les élections qui viennent de se passer il y a une dizaine de jours. Ça ne s'annonce pas très bien pour les midterms. Il y a quand même une grande insatisfaction vis-à-vis de l'économie, un taux de favorabilité de Donald Trump presque historiquement bas. Finalement, il y a une forme de volonté ou soif d'alternance. Aujourd'hui, les démocrates ne sont pas plus populaires que ça, mais dans un système bipartite, quand vous n'aimez pas un, vous tournez vers l'autre. Et aujourd'hui, l'autre, c'est les démocrates, pour ceux qui sont insatisfaits, déçus.
À suivre, en tout cas, quand on saura ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Emigrine, vous êtes spécialiste des États-Unis, bien sûr, vous êtes aussi experte associée à l'Institut Montaigne. On salue aussi et on remercie Franck Madvon. Merci encore. La suite, c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit.
Convocation d'ambassadeurs, boycott touristique, mais que se passe-t-il donc entre la Chine et le Japon?
Et juste après ça.
And it goes on and on. of wisdom changed. I've just got a little bit older and a little bit closer to that skates. Yeah, I like a dopamine hit more than a fat kid loves cake. And I can't say that I'm happy yet, but at least now I'm heading the right way, not the highway. And it goes on.
Lola Young, Not Like That Anymore, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, pourquoi la tension est-elle au plus haut entre la Chine et le Japon ?
Oui, un haut diplomate chinois qui veut couper la sale tête de la première ministre japonaise, des ambassadeurs convoqués, des échanges économiques et touristiques stoppés et au cœur des hostilités, Taïwan. L'ancienne Formose, colonisée par le Japon pendant plus d'un demi-siècle avant d'être rétrocédée à la Chine en 1945, cette île épicentre des tensions géopolitiques est de facto autonome, mais la Chine la considère comme sa 23e province. Et Pékin a très mal pris une déclaration de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaishi, qui devant le Parlement nippon déclare le 7 novembre qu'une attaque contre Taïwan menacerait la survie du Japon et pourrait donc justifier une intervention militaire.
Et ça, personne ne l'avait dit avant elle.
Non, aucun autre dirigeant n'était allé si loin, mais l'ambiguïté stratégique, ça n'est pas vraiment le style de Sanae Takaishi, dame de fer élue sur un programme ultranationaliste et révisionniste, profil idéal pour raviver les feux mal éteints d'une histoire conflictuelle et de contentieux territoriaux toujours d'actualité, la Chine revendiquant plusieurs îlots sous autorité japonaise. Les signaux d'apaisement émis depuis par Tokyo, l'envoi notamment d'un diplomate hier à Pékin, n'ont pas calmé les esprits et la crise diplomatique vire à la guerre économique. La Chine déconseille en effet à ses ressortissants de voyager au Japon, ce qui est lourd de conséquences pour l'archipel nippon où le tourisme est devenu un secteur clé. Le quart des visiteurs étrangers vient de Chine et ils seraient 500 000 à avoir annulé leurs billets d'avion ces derniers jours, les principales compagnies aériennes chinoises proposant de rembourser intégralement les vols vers le Japon.
Plus de touristes donc et un boycott qui se profile ?
Oui, des films japonais dont la sortie est reportée, des importations de fruits de mer stoppées, elles venaient juste de reprendre après une longue suspension consécutive à la catastrophe de Fukushima. La bourse de Tokyo a dévissé en début de semaine. Compagnies aériennes, cosmétiques, grands magasins. Les groupes liés au tourisme ont plongé, la Chine étant le premier partenaire économique du pays. Les mesures punitives font mal et le bras de fer prend également une tournure militaire entre survol de drones présumés chinois au sud de l'archipel et navires de garde-côte envoyés par Pékin dans les eaux territoriales japonaises.
Et est-ce qu'on peut imaginer que ça aille au-delà ?
Alors on est quand même très loin d'un conflit armé, hein, déjà parce que les forces en présence sont disproportionnées. La Chine est la première puissance maritime mondiale en nombre de navires. Elle vient de mettre en service son troisième porte-avions et en construit un quatrième. Et puis surtout, elle est une puissance nucléaire. Quand en face, le petit Japon accroît certes ses capacités de défense, mais sans commune mesure avec le géant chinois. En fait, Pékin semble surtout vouloir transmettre un message à son voisin. Ne vous occupez pas trop de Taïwan à l'heure où les États-Unis vous le réclament. Donald Trump souhaite en effet que le Japon comme l'Australie donnent des garanties sur leur implication sécuritaire dans la région. Il ne veut pas être le seul en somme à avoir à défendre Taïwan. Le veut-il toujours d'ailleurs ? Le président américain maintient l'ambiguïté et c'est dans ce contexte que Pékin augmente la pression sur le Japon.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage.
Hola, buenos días. Gracias.
reportage d'Un jour dans le monde en Espagne ce soir, qui n'a pas oublié que le 20 juin 1975, il y a 50 ans, mourait le général Franco. L'Espagne a mis du temps, mais elle se débarrasse de tous les oripeaux de la période franquiste. Les avenues du généralissime existent encore, mais elles sont de plus en plus rares. Les noms des rues ont été changés pour respecter deux lois mémorielles. Franco lui-même a été sorti, vous vous souvenez de cette affaire, de son mausolée en 2019. Reste tout de même un arc de triomphe à l'une des entrées de Madrid, des plaques aux symboles franquistes sur des milliers de logements sociaux et parfois, dans les esprits, un rapport singulier à l'histoire. Une extrême droite qui relativise, des familles qui ne veulent pas regarder le passé. Le reste, c'est Mathieu de Taillac qui raconte.
La Fondation Nationale Francisco Franco est née un an après la mort du dictateur, à l'initiative d'anciens dirigeants du régime, de militaires et de la veuve de Franco. L'organisation a encore pignon sur rue. Son président, un général à la retraite, nous reçoit au siège à Madrid. Le gouvernement a ouvert une procédure contre la Fondation. Au dossier figurent deux accusations qui, quand elles sont réunies, permettent la dissolution. Apologie du franquisme et humiliation des victimes. Juan Chicharro.
Dans la première partie, on nous présente comme les champions du monde de l'apologie du franquisme. On en est très satisfait, c'est ce qu'on doit faire. Quant à l'humiliation des victimes, ils n'ont absolument rien trouvé. Ils disent qu'on a publié sur notre site des articles négationnistes. Un article, par exemple, qui nie le bombardement de Guernica, un autre sur la répression. Mais ce sont des particuliers qui donnent leur version de l'histoire.
Il n'existe pas en Espagne de délit de négationnisme. Les lois mémorielles concernent surtout la suppression d'emblèmes franquistes sur la voie publique et l'accompagnement des victimes de la dictature, qui en ont encore bien besoin. L'Association de la récupération de la mémoire historique, par exemple, l'ARMH, se consacre depuis 25 ans à la recherche des milliers de corps de républicains exécutés et abandonnés. La semaine dernière, l'ARMH répondait à l'appel d'une famille et se retrouvait dans un champ de la province de Ségovie, une centaine de kilomètres au nord de Madrid. Marco González coordonne les opérations. Il lève une bâche posée au fond d'un trou creusé à la pelleteuse.
Ce que vous voyez ici, c'est le crâne. Et à l'autre bout, on a trouvé des semelles en caoutchouc. C'est une chaussure très modeste, des espadrilles, mais le tissu a disparu. On a trouvé aussi une pièce de monnaie de 1902, qui permet de dater l'enterrement. Et dans le champ, trois douilles de Mauser, l'arme réglementaire de l'armée et de la garde civile.
Les bénévoles recherchent les corps de deux hommes, un instituteur, Luis García, et un cantonnier, Julio Maroto, fusillé au début de la guerre civile en 1936, probablement parce qu'ils étaient syndicalistes. Sergio Castro, archéologue de l'association.
Le corps est sur le ventre. Sa position révèle un enterrement sans aucune dignité, sans aucun respect. Cette personne a été lancée dans le trou. Les bras sont restés dans la position dans laquelle le corps est tombé. C'est un enterrement clandestin, un corps couvert de fractures, de signes de violence, qui correspond totalement à ce que l'on cherche.
Les deux familles ont été prévenues. Les proches de la fille de Luis, nonagénaire, préfèrent attendre les conclusions du test ADN avant de la prévenir, pour ne pas lui donner de faux espoirs, d'autant que l'an dernier, de premières recherches s'étaient avérées infructueuses. Malena García est responsable à l'association du contact avec les familles.
Une exhumation, ce n'est pas juste déterrer les ossements. C'est voir comment les membres de la famille se racontent leur histoire, comment le silence commence à se briser. Si on identifie l'ADN, on leur donne le corps et la famille fait un rite comme s'il venait de mourir. Ils l'enterrent en famille, ils apportent des fleurs, c'est un mélange. La joie d'avoir retrouvé quelque chose qu'ils pensaient impossible. Et la tristesse, parce que c'est un enterrement. C'est comme s'il mourait à nouveau.
50 ans après la fin de la dictature, 80 ans après la guerre civile, des familles pleurent encore leur mort en Espagne ou même demandent de pouvoir les retrouver pour les enterrer dignement. L'Association de la récupération de la mémoire historique, elle, réclame que l'État assume ses responsabilités et réponde lui-même aux demandes de ses familles.
La mort de Franco le 20 novembre 1975, pour ceux qui m'ont entendu dire au mois de juin. Merci en tout cas à Mathieu de Taillac pour le reportage et à très vite. La suite dans Un jour dans le monde, c'est ce que Guillaume Audat a déniché sous les radars de l'actualité internationale.
Voilà, sous les radars à Bruxelles. C'est comme à Marseille, on intimide, on élimine et quand ça marche, on prospère sur fond de narcotrafic.
Et écrire le monde, Ilan Amor-Youssef avec les auteurs qui racontent la planète.
Le MeToo de la présidente du Mexique, victime d'une agression sexuelle en pleine rue.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète nous emmène très loin, jusqu'au Tibet avec une chanteuse exilée depuis longtemps aux États-Unis, Yung Chen Lamo. Happiness is le bonheur, c'est la programmation musicale de Djoubaka, bien sûr.
Absolument.
Yong Chen Lamo, Happiness Is sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Sous les radars, la plage, non, Guillaume Audin? L'Ukraine exige de la Russie qu'elle lui rembourse 44 milliards de dollars pour les seuls dommages écologiques causés par la guerre.
Et c'est une première dans l'histoire des conflits. Jamais auparavant, un pays n'avait demandé une compensation climatique à son agresseur. C'est chose faite et ça s'est passé au Brésil, à la COP30 de Belém. C'est le vice-ministre ukrainien de l'économie qui a présenté la facture à 44 milliards de dollars donc pour financer, je le cite, une reconstruction respectueuse de la planète. À la COP30, c'est un coup très judicieux de la part des Ukrainiens, car c'est une façon de rallier à soi les pays du Sud global, tout à la fois très impactés par le changement climatique et enclins, pour certains, à soutenir le Kremlin. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine, des millions de litres de carburant ont été brûlés, des forêts entières ont été incendiées, des milliers de bâtiments ont été détruits, des quantités de béton et d'acier ont été utilisées. On appelle ça du carbone de guerre. La Russie en a mis près de 300 millions de tonnes de ce dioxyde en bientôt 4 ans de guerre, ce qui incite en effet à réfléchir à ses alliances.
Dubaï, Guillaume, son salon aéronautique, une vitrine de la géopolitique mondiale.
1500 entreprises au taquet, 200 appareils présentés, Airbus et Boeing en majesté lorsqu'on se rend au Dubai Air Show, la plus grande réunion du genre au Moyen-Orient. Ça n'est évidemment pas pour vendre des chapeaux. Les professionnels du secteur, tant dans le domaine militaire que civil, s'y retrouvent pour se disputer des milliards et des milliards de dollars de commandes. Cette année, la grande nouveauté, c'est l'entrée sur ce marché de COMAC, le bras aéronautique de Pékin, bien décidé à fissurer, sinon fracturer, le duopole formé par l'avionneur européen et son concurrent américain, Airbus et Boeing versus les Chinois. C'est la grande bataille du ciel à venir. En attendant, la Russie a fait parader son nouveau chasseur de combat. Dubaï est l'un des rares salons où Moscou est encore invité, alors que cette année, Israël a été snobé officiellement pour des raisons techniques. La réalité est nettement plus prosaïque. Les monarchies du Golfe n'ont pas encaissé Gaza et sans doute moins encore les frappes de l'armée israélienne au Qatar. Au Dubaï Air Show, il est tout autant question d'avion que de politique.
Vous n'avez jamais peur vous-même?
Non. C'est un métier que j'exerce avec plaisir.
Et vous patient. Savez que vous prenez des risques, vous le savez.
Sans doute, mais comme les autres magistrats...
Ça, c'est la voix du procureur antinarco de Bruxelles. Presque prémonitoire, c'était il y a quelques mois, lors d'un entretien à la télé belge.
Oui, prémonitoire, Julien Moinil, c'est son nom au procureur de Bruxelles, parce qu'il a été la cible d'une tentative d'attentat imminent, ce sont les mots graves employés hier par le parquet royal de Belgique. Gros coup de filet dans les milieux albanais. 8 personnes ont été arrêtées, des suspects liés au trafic de drogue et au milieu criminel. L'opération a été menée sur la foi d'informations qui remonte à l'été dernier, moment à partir duquel ce jeune magistrat a été placé sous protection policière. Il le dit lui-même, le procureur de Bruxelles, il n'est pas un agent de voyage. Il a décidé de s'engager corps et âme contre le crime organisé qui, à Bruxelles comme à Marseille, élimine, intimide et gangrène dans les quartiers. En France, on regarde cela avec beaucoup, mais beaucoup d'attention à quelques semaines à peine de la création du premier parquet anti-narco-trafic.
Merci beaucoup Guillaume Audin. À demain, le mercredi, c'est Écrire le Monde et c'est Ilana Mor-Youssef.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et on commence avec cette scène stupéfiante. Ilana, elle a fait le tour du monde. Vous l'avez probablement vu le 4 novembre dernier. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, est victime d'une agression sexuelle en pleine rue. Elle se rendait à pied à un événement public. Elle saluait les sympathisants et un homme a passé un bras autour de son épaule, lui a touché la hanche et les seins. Il a même essayé de l'embrasser dans le cou, Ilana.
Et dès le lendemain, Claudia Sheinbaum a déposé plainte pour harcèlement sexuel contre son agresseur. La présidente a aussi ordonné de revoir la législation des 32 États qui composent le Mexique afin que ce type de comportement soit désormais punissable partout dans le pays.
Si on fait ça à la présidente, alors que va-t-il se passer pour toutes les jeunes filles, les femmes de notre pays? C'est quelque chose qui ne doit pas se produire. Je ne le dis pas en tant que présidente, mais en tant que femme. Ça ne doit pas se produire. Notre espace personnel, personne n'a le droit de le violer. personne, aucun homme n'a le droit de violer cet espace.
Au Mexique, l'écrasante majorité des agressions sexuelles et des féminicides restent impunies. C'est le sujet du puissant récit de Cristina Rivera Garza, intitulé « L'invincible été de Liliana ». Ce livre a reçu le prix Pulitzer 2024. Cristina Rivera Garza raconte comment 30 ans après les faits, elle revient au Mexique pour rouvrir le dossier classé sans suite du meurtre de sa sœur. L'assassin, tout le monde le connaissait, c'était le petit ami de Liliana qu'elle essayait de quitter. Il n'a jamais été inquiété.
29 ans, 3 mois, 2 jours Ilana après la mort de sa sœur. Voici donc Cristina Rivera Garza au palais de justice de Mexico pour récupérer son dossier.
C'est la scène d'ouverture du récit. Cristina a rendez-vous avec une amie. Il fait chaud et elle s'apprête à affronter la machine judiciaire. Fin 2023, il y a 2 ans, c'était juste avant son prix Pulitzer, Cristina Rivera Garza était à Paris pour présenter son livre. Je lui avais demandé pourquoi elle avait attendu si longtemps. 30 ans, c'est long. Quand on a perdu un être cher, m'avait-elle répondu, 30 ans ou 2 jours, c'est la même chose.
Le temps du deuil fonctionne différemment. Quand il s'agit de morts violentes, c'est un deuil traversé par le sentiment de culpabilité, traversé par la honte, et surtout, c'est un deuil socialement frappé de silence. Souvent, les familles des victimes assassinées doivent payer elles-mêmes une enquête. Cette recherche dans les arcanes de la justice, malheureusement, c'est quelque chose que ma famille et moi avons enduré. Et quand dure de nombreuses familles au Mexique et en Amérique latine.
C'est la sinistre réalité. Si vous voulez une enquête sur l'assassinat d'un proche, il faut payer un enquêteur privé.
Et alors, qu'est-ce qu'a fait la famille de Liliana ?
C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça n'a servi à rien. La famille de Liliana est restée prostrée dans la douleur et le sentiment de honte. Comment cette jeune fille intelligente, entourée d'amis, éprise de liberté, comment s'est-elle retrouvée dans une relation violente sans que personne ne puisse rien faire ? Pour répondre à cette question, Cristina Rivera Garza a utilisé ses souvenirs.
Un lundi, Lily est arrivée en boitant à l'école. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» lui ai-je demandé, en pensant qu'elle était tombée. Liliana m'a répondu à moitié, évasivement, essayant de dire quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. « C'est que, Angel, quoi Angel ?» ai-je osé lui demander. Elle m'avait déjà confié qu'il était devenu plus jaloux depuis qu'elle avait commencé l'université. Il avait raté l'examen d'admission et avait été obligé d'aller travailler dans le magasin familial. Liliana s'inquiétait de ce qu'il se sente inférieur à elle. J'ai insisté. Angel, quoi ? Elle m'a fait comprendre qu'il l'avait blessée. Je n'arrivais pas à savoir si je pouvais poser une autre question ou s'il valait mieux garder le silence. Les relations sexuelles n'étaient pas un sujet si facile à aborder à l'époque. Beaucoup de jeunes filles faisaient l'amour avec leur fiancé, ça n'était pas inhabituel, mais en parler directement, en tout cas entre nous, si. De ce qu'elle m'a dit, j'ai conclu que la veille, elle s'était rendue chez Angel, qu'ils avaient pris un bain ensemble et eu des relations sexuelles. Alors qu'elle somnolait, il l'avait réveillée en insistant pour qu'il fasse l'amour une autre fois. Liliana n'a pas dit explicitement qu'il l'avait forcée, mais elle m'a raconté qu'à la fin, il lui avait demandé pardon. Une autre fois, elle avait un bras bandé. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle avait glissé dans la baignoire et qu'elle s'était blessée avec du verre cassé.
Une lecture de Béatrice Duguay, cette mécanique de la violence, Ilana, elle est malheureusement très commune et pas seulement au Mexique.
C'est vrai. D'ailleurs, Cristina Rivera Garza n'a pas souhaité que ce livre ne soit qu'un récit centré sur le meurtre et l'assassin.
L'un des grands problèmes quand on raconte ce genre d'histoire, c'est que le mythe du crime passionnel est très puissant. C'est un mythe souvent centré sur l'image de l'assassin. Et moi, ce que je voulais avec ce livre, c'est que les lecteurs se sentent aussi proches de Liliana que je l'ai été pendant l'écriture. Et aussi que sa vie, la complexité de sa vie, la promesse de sa vie constitue la part essentielle de ce livre.
La justice n'a jamais rouvert le dossier. L'ex-petit ami s'est enfui après le meurtre. Il s'est installé dans le sud de la Californie sous un faux nom et il est mort pendant le Covid. Tout cela, Cristina le sait grâce au détective privé qu'elle a embauché. Mais son livre livre a atteint son objectif. Après sa parution, des artistes de Mexico ont créé des œuvres en hommage à Liliana. Dans le quartier qu'elle fréquentait, on peut voir une plaque à sa mémoire avec ces mots. Liliana Rivera Garza a arpenté ses rues. Sur cette terre, son allure était radieuse et intrépide. Et juste en dessous, il y a une autre plaque, que le souvenir de son assassin soit englouti par le temps et l'oubli.
Merci beaucoup, Ilana Mor-Youssef, c'est joli. Le livre s'intitule « L'invincible été de Liliana », signé donc Cristina Rivera Garza, prix Pulitzer, donc, vous nous l'avez dit, 2024.